En effectuant mes dernières vérifications avant de mettre en onde la suite de la guerre des Gaules, je me suis aperçu que suite à un problème technique inconnu avec mon programme d'enregistrement Audacity, j'ai perdu les deux premières parties du livre 5. Quitte à les refaire, j'ai opté pour une autre traduction cette fois-ci. Écoutez, s'il vous plaît, mes commentaires au début du livre 7 pour en connaître la raison. Donc, voici La guerre des Gaules, écrit par Jules César et traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. La lecture d'aujourd'hui est tirée du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 28 juillet 2009. Alors nous continuons avec le livre 5, première partie de 3. 1. Sous le consulat de Lucius Domitius et d'Appius Claudius, César, quittant ses quartiers d'hiver pour aller en Italie, comme il avait accoutumé de faire chaque année, ordonne à ses légats qu'il avait mis à la tête des légions de faire construire pendant l'hiver le plus grand nombre de vaisseaux possible et de faire réparer les anciens. Il indique quelles doivent en être les dimensions et la forme. Pour la rapidité du chargement et la facilité de la mise à sec, il les fait un peu plus bas que ceux dont nous avons coutume d'user sur notre mer. D'autant qu'il avait observé que les vagues, par suite du flux et du reflux, étaient moins hautes. À cause des charges et du grand nombre de chevaux et bêtes de somme qu'ils devaient transporter, il leur donne une largeur un peu supérieure à celle des bâtiments dont nous nous servons sur les autres mers. Il ordonne qu'ils soient tous du type léger, à voile et à rames, disposition que facilite beaucoup leur faible hauteur. Ce qui est nécessaire à leur armement, il le fait venir d'Espagne. Puis, ayant achevé de tenir ses assises dans la Gaule citérieure, il part pour l'Illyricum, sur la nouvelle que les Pyrrhustes désolaient par leurs incursions les confins de la province. Dès son arrivée, il ordonne aux cités de lever des troupes et leur fixe un point de rassemblement. Quand ils apprennent la chose, les Pyrrhustes lui envoient des députés pour lui dire que la nation n'est pour rien dans ce qui s'est passé, et se déclare prête à fournir toutes les satisfactions qu'il exigera. Après les avoir entendus, César leur ordonne de lui livrer des otages et fixe le jour de la remise. En cas de manquement, ce sera la guerre. On les amène au jour dit, selon ses ordres. Il nomme des arbitres pour estimer les dommages subis par chaque cité, et en fixer la réparation. 2. Ayant réglé cette affaire et tenu ses assises, il retourne dans la Gaule citérieure et de là part pour l'armée. Dès son arrivée, il visite tous les quartiers d'hiver et trouve tout équipé, grâce à l'activité singulière des troupes, alors qu'on manquait de tout, environ 600 navires du type que nous avons décrit plus haut et 28 vaisseaux longs. Il ne manquait pas grand-chose pour qu'on pût les mettre à la mer sous peu de jours. Il félicite les soldats et ceux qui ont dirigé l'entreprise, explique ses intentions et ordonne que tous se concentrent à Portus Itius, d'où il savait que la traversée était la plus aisée et d'où il n'y a que 30 000 environ du continent en Bretagne. Il laissa les effectifs qu'il jugea nécessaires pour cette opération. Quant à lui, prenant 4 légions sans bagages et 800 cavaliers, il se rend chez les Trévires parce qu'il s'abstenait de venir aux assemblées, ne reconnaissait pas son autorité et essayait, disait-on, d'attirer les Germains transrhénans. 3. Ce peuple a la plus forte cavalerie de toute la Gaule, une infanterie nombreuse, et il touche, comme nous l'avons dit, au Rhin. deux hommes s'y disputaient le pouvoir, Indutiomaros et Saint-Gétorix. Celui-ci, dès qu'on sut l'approche de César et de ses légions, vint le trouver, donna l'assurance que lui et les siens resteraient dans le devoir et ne trahiraient pas l'amitié du peuple romain, et l'instruisit de ce qui se passait chez les Trévires. Indutiomaros, au contraire, se mit à lever de la cavalerie et de l'infanterie et à préparer la guerre, cachant dans la forêt des Ardennes, qui s'étend sur une immense étendue au milieu du territoire des Trévires, depuis le Rhin jusqu'aux frontières des Rèmes, ceux à qui leur âge ne permettait pas de porter les armes. Puis, quand il voit qu'un assez grand nombre de chefs Trévires, cédant à leur amitié pour Saint-Gétorix et à la frayeur que leur causait l'arrivée de nos troupes, se rendaient auprès de César et, ne pouvant rien pour la nation, le sollicitaient pour eux-mêmes, il craint d'être abandonné de tous et envoie des députés à César. S'il n'avait pas voulu quitter les siens et venir le trouver, c'était pour pouvoir mieux maintenir la cité dans le devoir, car on pouvait craindre que, si tous les nobles s'en allaient, le peuple, dans son ignorance, ne se laissât entraîner. La cité lui obéissait donc, et si César y consentait, il viendrait dans son camp placer sous sa protection sa personne et la cité. 4. César n'ignorait pas ce qui lui dictait ses paroles et ce qui le détournait de ses premiers desseins. Pourtant, ne voulant pas être contraint de passer tout l'été chez les Trévires, quand tout était prêt pour la guerre de Bretagne, il ordonna à Indutiomaros de venir avec 200 otages. Quand celui-ci les eut amenés, et parmi eux son fils et tous ses proches que César avait réclamés nommément, il le rassura et l'exhorta à rester dans le devoir. Mais il n'en fit pas moins comparaître les chefs Trévires et les rallia un à un à Saint-Gétorix. Ce n'était pas seulement une juste récompense de ses services. César voyait aussi un grand intérêt à fortifier autant que possible le crédit d'un homme en qui il avait trouvé un exceptionnel dévouement. Ce fut pour Indutiomaros un coup sensible que de se voir mis en moindre faveur auprès des siens. Et lui, qui déjà nous était hostile, il en conçut un ressentiment qui exaspéra sa haine. 5. Ses affaires une fois réglées, César se rend à Portus Itius avec ses légions. Là, il apprend que 60 navires qui avaient été construits chez les Meldes ont été rejetés par la tempête et, incapables de tenir leur route, ont dû revenir à leur point de départ. Quant aux autres, il les trouve prêts à naviguer et pourvus de tout le nécessaire. La cavalerie de toute la Gaule se rassemble là, forte de 4000 chevaux, avec les chefs de toutes les nations. César avait résolu de n'en laisser en Gaule qu'un tout petit nombre, ceux dont il était sûr, et d'emmener les autres comme otages, parce qu'il craignait un soulèvement de la Gaule en son absence. 6. Au nombre de ces chefs étaient l'Éduain Dumnorix, dont nous avons déjà parlé. Il était des premiers que César eût pensé à garder avec lui, car il savait son goût de l'aventure, sa soif de domination, sa hardiesse et l'autorité dont il jouissait parmi les Gaulois. De plus, Dumnorix avait dit dans une assemblée des Éduains que César lui offrait d'être roi de ce peuple, propos qui les inquiétait fort, sans qu'ils osassent députer à César pour dire qu'il n'acceptait pas son projet ou prier qu'il y renonçât. César avait connu le trait par ses hôtes. Dumnorix commença par user de toutes sortes de prières pour obtenir qu'on le laissât en Gaule. Il n'avait pas l'habitude de naviguer et redoutait la mer. Il était retenu par des devoirs religieux. quand il vit qu'il se heurtait à un refus catégorique, n'ayant plus aucun espoir de succès, il se mit à intriguer auprès des chefs gaulois, leur faisant peur, les prenant chacun à part et les exhortant à rester sur le continent. Ce n'était pas sans raison, disait-il, qu'on enlevait à la Gaule toute sa noblesse. Le projet de César, qui n'osait pas la massacrer sous les yeux des Gaulois, était de la transporter en Bretagne pour l'y faire périr. Aux autres, Dumnorix jurait et faisait jurer qu'ils exécuteraient d'un commun accord ce qu'ils croiraient utile aux intérêts de la Gaule. Bien des gens dénonçaient ces menées à César. 7. Lorsqu'il connut cette situation, sa pensée fut la suivante. En raison du rang où il plaçait la nation éduenne, tout tenter pour retenir Dumnorix et le détourner de ses desseins. Mais comme d'autre part l'égarement du personnage ne faisait visiblement que croître, prendre ses précautions pour qu'il ne pût être un danger ni pour lui ni pour l'État. En conséquence, ayant été retenu au port environ 25 jours par le Chorus, vent qui souffle le plus souvent, en toute saison, sur ses côtes, il s'appliqua à garder Dumnorix dans le devoir, sans pour cela négliger de se tenir au courant de tous les plans qu'il formait. Enfin, profitant d'un vent favorable, il donne aux fantassins et aux cavaliers l'ordre d'embarquer. Mais tandis que cette opération occupait l'attention de tous, Dumnorix quitta le camp, à l'insu de César, avec la cavalerie éduenne, et prit le chemin de son pays. Quand il apprend la chose, César suspend le départ et, toute affaire cessante, envoie une grande partie de la cavalerie à sa poursuite avec ordre de le ramener. S'il résiste, s'il refuse d'obéir, il commande qu'on le tue. Car il n'attendait rien de sensé, loin de sa présence, d'un homme qui lui avait désobéi en face. Dumnorix, sommé de revenir, résiste, met l'épée à la main, supplie les siens de faire leur devoir, répétant à grands cris qu'il est libre et appartient à un peuple libre. Conformément aux ordres, on l'entoure et on le tue. Quant aux cavaliers éduens, tous reviennent auprès de César. 8. Cette affaire terminée, César laissa Labienus sur le continent avec 3 légions et 2 000 cavaliers pour garder les ports et pourvoir au blé, pour surveiller les événements de Gaule et prendre les décisions que comporteraient les circonstances. Lui-même, avec 5 légions et autant de cavaliers qu'il en avait laissés sur le continent, il leva l'ancre au coucher du soleil. Il fut d'abord poussé par un léger vent du sud-ouest, mais vers minuit, le vent tomba. Il ne put tenir sa route et, emporté assez loin par le courant de marée, quand le jour parut, il aperçut sur sa gauche la Bretagne qu'il avait manquée. Alors il suivit le courant qui portait maintenant en sens contraire et fit force de rame pour aborder à cet endroit de l'île que l'été précédent il avait reconnu pour très favorable à un débarquement. En cette occasion, nos soldats furent au-dessus de tout éloge avec des navires de transport et lourdement chargés. Ils purent, en ramant sans relâche, aller aussi vite que les vaisseaux longs. On atteignit la Bretagne avec toute la flotte vers midi, sans voir l'ennemi sur ce point. Comme César le sut plus tard par des prisonniers, des groupes nombreux s'y étaient assemblés et, effrayés à la vue de tant de vaisseaux, avec ceux de l'année précédente et ceux que des particuliers avaient construits pour leur usage, c'était plus de 800 navires qui avaient paru à la fois. Ils avaient quitté le rivage pour aller se cacher sur les hauteurs. 9. César fit débarquer ses troupes et choisit un emplacement convenable pour son camp. Lorsqu'il sut par des prisonniers où s'était arrêté l'ennemi, laissant près de la mer 10 cohortes et 300 cavaliers pour la garde des navires, avant la fin de la troisième veille, il marcha à l'ennemi. Il craignait d'autant moins pour sa flotte qu'il la laissait à l'ancre sur une plage douce et toute unie. Il donna le commandement du détachement et de la flotte à Quintus Atrius. Pour lui, une marche de nuit d'environ 12 000 l'amena en vue de l'ennemi. Celui-ci s'avança vers le fleuve avec sa cavalerie et ses chars, et d'une position dominante, essaya de nous interdire le passage et engagea la bataille. Repoussés par nos cavaliers, les barbares se cachèrent dans les bois. Ils trouvaient là une position remarquablement fortifiée par la nature et par l'art, qu'ils avaient aménagée antérieurement, sans doute pour quelques guerres entre eux. Car on avait abattu un grand nombre d'arbres et on s'en était servi pour obstruer tous les accès. Disséminés en tirailleurs, ils lançaient des traits de l'intérieur de la forêt et nous interdisaient l'entrée de leur forteresse. Mais les soldats de la 7e Légion, ayant formé la tortue et poussé une terrasse d'approche jusqu'au retranchement ennemi, prirent pied dans la place et les chassèrent de la forêt sans éprouver de pertes sensibles. César défendit qu'on les poursuivît plus loin, parce qu'ils ne connaissaient pas le pays et parce que, la journée étant déjà fort avancée, il voulait en consacrer la fin à la fortification du camp. 10. Le lendemain matin, il envoya fantassins et cavaliers en trois corps à la poursuite de l'ennemi en fuite. Ils avaient fait un assez long chemin et déjà on apercevait les derniers fuyards quand des cavaliers envoyés par Quintus Atrius vinrent annoncer à César que, la nuit précédente, une très violente tempête s'était élevée et que presque tous les vaisseaux avaient été désemparés et jetés à la côte, câbles et ancres ayant cédé et les matelots et les pilotes n'ayant pu soutenir la violence de l'ouragan, les navires, heurtés les uns contre les autres, avaient beaucoup souffert. 11. À cette nouvelle, César ordonne qu'on rappelle légionnaires et cavaliers, qu'ils s'arrêtent et fassent demi-tour. Lui-même retourne au navire. Ce que messager et lettres lui avaient appris se confirme, en somme, à ses yeux. 40 navires étaient perdus, mais les autres paraissaient pouvoir être réparés au prix d'un grand travail. Il choisit des ouvriers dans les légions et en fait venir d'autres du continent. Il écrit à Labienus d'avoir à construire, avec les légions dont il dispose, le plus de navires possible. De son côté, bien que ce fût un grand travail et qui dût coûter beaucoup de peine, il prit le parti, qui lui parut le meilleur, de tirer à sec toute la flotte et de l'enfermer avec le camp dans une fortification commune. Cette opération demanda environ 10 jours d'un labeur que la nuit même n'interrompait pas. Une fois les navires mis à sec et le camp parfaitement fortifié, laissant pour garder la flotte les mêmes troupes que précédemment, il retourne à l'endroit qu'il avait quitté. Il y trouva des forces bretonnes déjà nombreuses qui s'étaient rassemblées là de toutes parts sous les ordres de Cassivellaunus, à qui, d'un commun accord, on avait confié tout pouvoir pour la conduite de la guerre. C'est un prince dont le territoire est séparé des États maritimes par un fleuve qu'on nomme la Tamise, à environ 80 milles de la mer. Il n'avait cessé jusque-là d'être en guerre avec les autres peuples. Mais l'effroi causé par notre arrivée avait déterminé les Bretons à lui donner le commandement suprême. 12. L'intérieur de la Bretagne est peuplé d'habitants qui se disent, en vertu d'une tradition orale, autochtones. Sur la côte vivent des peuplades qui étaient venues de Belgique pour piller et faire la guerre. Presque toutes portent les noms des cités d'où elles sont issues. Ces hommes, après la guerre, restèrent dans le pays et y devinrent colons. La population de l'île est extrêmement dense. Les maisons s'y pressent, presque entièrement semblables à celles des Gaulois. Le bétail abonde. Pour monnaie, on se sert de cuivre, de pièces d'or ou de lingots de fer d'un poids déterminé. Le centre de l'île produit de l'étain, la région côtière du fer, mais en petite quantité. Le cuivre vient du d'or. Il y a des arbres de toute espèce, comme en Gaule, sauf le hêtre et le sapin. Le lièvre, la poule et l'oie sont à leurs yeux nourriture interdite. Ils en élèvent cependant pour le plaisir. Le climat est plus tempéré que celui de la Gaule, les froids y étant moins rigoureux. 13. L'île a la forme d'un triangle, dont un côté fait face à la Gaule. Des deux angles de ce côté, l'un vers le Cantium, où abordent à peu près tous les navires venant de Gaule, regarde l'Orient. L'autre, plus bas, est au midi. Ce côté se développe sur environ 500 milles. Le deuxième regarde l'Espagne et le couchant. Dans ces parages est l'Hibernie, qu'on estime deux fois plus petite que la Bretagne. Elle est à la même distance de la Bretagne que celle-ci de la Gaule. À mi-chemin est l'île qu'on appelle Mona. Il y a aussi, dit-on, plusieurs autres îles plus petites, voisines de la Bretagne, à propos desquelles certains auteurs affirment que la nuit y règne pendant 30 jours de suite au moment du solstice d'hiver. Pour nous, nos enquêtes ne nous ont rien révélé de semblable. Nous constations toutefois, par nos clepsydres, que les nuits étaient plus courtes que sur le continent. La longueur de ce côté du triangle, d'après l'opinion des 10 auteurs, est de 700 milles. Le troisième fait face au nord. Il n'y a aucune terre devant lui, sauf à son extrémité, la Germanie. La longueur de cette côte est évaluée à 800 milles. Ainsi, l'ensemble de l'île a 2000 milles de tour. 14. De tous les habitants de la Bretagne, les plus civilisés, de beaucoup, sont ceux qui peuplent le Cantium, région tout entière maritime. Leurs mœurs ne diffèrent guère de celles des Gaulois. Ceux de l'intérieur, en général, ne sèment pas de blé. Ils vivent de lait et de viande et sont vêtus de peau. Mais c'est un usage commun à tous les Bretons de se teindre le corps au pastel, qui donne une couleur bleue, et cela rend leur aspect particulièrement terrible dans les combats. Ils portent de longues chevelures et se rasent toutes les parties du corps, à l'exception de la tête et de la lèvre supérieure. Leurs femmes sont en commun entre 10 ou 12, particulièrement entre frères et entre père et fils. Mais les enfants qui naissent de cette promiscuité sont réputés appartenir à celui qui a été le premier époux. 15. La cavalerie et les chars ennemis eurent un vif engagement avec notre cavalerie pendant que nous étions en marche. Néanmoins, nous eûmes partout le dessus et les Bretons furent repoussés vers des forêts et des collines. Nous en tuâmes beaucoup, mais une poursuite trop ardente nous causa quelques pertes. Les ennemis attendirent un certain temps. Puis, tandis que nos soldats étaient sans méfiance et tout occupés à fortifier le camp, ils firent soudain irruption hors des forêts et, tombant sur ceux qui étaient de garde en avant du camp, livrèrent un violent combat. César envoya en soutien 2 cohortes et il choisit les premières de 2 légions. Elles prirent position en ne laissant entre elles qu'un très petit intervalle. Mais l'ennemi, profitant du trouble que causait chez les nôtres ce nouveau genre de combat, eut l'audace de se précipiter entre les 2 cohortes et se dégagea sans perte. Ce jour-là, Quintus Laberius Durus, tribun militaire, est tué. L'envoi de nouvelles cohortes permet de repousser l'ennemi. 16. L'affaire, avec tous ces incidents, fut instructive. Comme elle se déroulait sous les yeux de tous et devant le camp, on put se rendre compte que nos soldats, trop pesamment armés, ne pouvant poursuivre l'ennemi s'il se retirait, et n'osant pas s'écarter de leurs enseignes, étaient mal préparés à combattre un tel adversaire. Que d'autre part, notre cavalerie ne pouvait livrer bataille sans grave danger, parce que les ennemis cédaient le plus souvent par feinte, et quand ils avaient attiré les nôtres à quelque distance des légions, sautaient à bas de leurs chars et livraient, à pied, un combat inégal. En tant que le combat restait un combat de cavalerie, il se livrait dans de telles conditions que le danger était exactement le même pour le poursuivant et le poursuivi. Ajoutez à cela qu'il ne combattait jamais par masse, mais en ordre dispersé et à de très grands intervalles, et qu'ils avaient des postes de réserve échelonnés de distance en distance, ce qui leur permettait de s'offrir mutuellement, à tour de rôle, une ligne de retraite, et de remplacer les combattants fatigués par d'autres, dont les forces étaient intactes. 17. Le lendemain, les ennemis prirent position loin du camp, sur les collines. Ils ne se montraient que par petits groupes, et attaquaient nos cavaliers avec moins de vigueur que la veille. Mais à midi, comme César avait envoyé au fourrage 3 légions et toute la cavalerie, sous le commandement du légat Caius Trébonius, soudain, de toutes parts, ils se précipitèrent sur nos fourrageurs et leur élan les porta jusqu'aux enseignes et aux légions. Les nôtres, contre-attaquant avec vigueur, les repoussèrent et ils les suivirent sans relâche. Nos cavaliers, rassurés par ce soutien, puisqu'ils voyaient les légions derrière eux, les chargèrent impétueusement et, en faisant un grand massacre, ne leur laissèrent pas le moyen de se reformer, ni de faire front ou de sauter à bas des chars. Cette déroute entraîna sur le champ la dispersion des auxiliaires qui étaient venus de tous côtés. Et jamais plus dans la suite, les ennemis ne nous livrèrent bataille avec l'ensemble de leurs forces. 18. César, mis au courant de leur plan, conduisit son armée vers la Tamise pour la faire pénétrer dans le pays de Cassivellaunus. Ce fleuve n'est guéable qu'en un seul endroit, et non sans peine. Quand il y fut arrivé, il s'aperçut que sur l'autre rive, d'importantes forces ennemies étaient rangées. En outre, la berge était défendue par des pieux pointus qui la bordaient, et d'autres pieux du même genre, que l'eau recouvrait, étaient enfoncés dans le lit du fleuve. Ayant su cela par des prisonniers et des déserteurs, César envoya en avant la cavalerie et ordonna aux légions de marcher sans retard à sa suite. La rapidité et l'élan de nos troupes furent telles, bien que les hommes eussent la tête seule hors de l'eau, que l'ennemi ne put soutenir le choc des légions et de la cavalerie, et, abandonnant les bords du fleuve, prit la fuite. 19. Cassivellaunus, ainsi que nous l'avons dit plus haut, avait, désespérant de nous vaincre en bataille rangée, renvoyé le gros de ses troupes. Il n'avait gardé que 4000 essédaires environ, avec lesquels il surveillait nos marches. Il se tenait à quelque distance de la route et se dissimulait dans des terrains peu praticables et couverts de bois. Là où il savait que nous allions passer, il faisait évacuer les campagnes, poussant bêtes et hommes dans les forêts. S'il arrivait que notre cavalerie se fût répandue un peu plus loin pour piller et dévaster, il lançait ses assez d'air hors des bois par toutes les issues, routes ou sentiers, et livrait à nos cavaliers un combat si redoutable qu'il leur ôtait l'envie de s'aventurer à quelque distance. Il ne restait à César d'autre parti que d'interdire qu'on s'éloignât de la colonne d'infanterie et de nuire à l'ennemi en dévastant ses campagnes et en allumant des incendies, dans la mesure restreinte où la fatigue de la marche le permettait aux légionnaires. 20. Cependant, les Trinovantes, qui étaient, ou peu s'en fallait, le peuple le plus puissant de ces contrées, Mandu Bratios, jeune homme de cette cité, s'était attaché à César et était venu le trouver sur le continent. Son père avait été roi des Trinovantes. Il avait été tué par Cassivellaunus, et le fils n'avait évité la mort qu'en s'enfuyant. Ce peuple, donc, envoie des députés à César, promettant de se soumettre et d'obéir à ses ordres. Il lui demande de protéger Mandu Bratios contre les violences de Cassivellaunus et de l'envoyer dans sa cité pour qu'il y exerce le pouvoir souverain. César exige d'eux 40 otages et du blé pour l'année. Et il leur envoie Mandu Bratios. Ils obéirent sans retard, envoyèrent le nombre d'otages demandés et du blé. Fin de la partie 1 de 3 du livre 5.